L'heure de se meubler. Habitat, bureau, sur mesure sans démesure. Avec Nicole Meubles à Porrentruy et Delémont.
RFJ Info.
Le journal de Nancy Chapuis.
Bonsoir. Aucune irrégularité commise intentionnellement par les autorités de Haute-Saône, c'est ce qu'indique le rapport intermédiaire du canton du Jura sur la commune fusionnée. Le maire prend note des erreurs de procédure et reste ouvert aux améliorations possibles. La Suisse doit-elle développer l'énergie éolienne? La réponse est non, selon la nouvelle association Paysage Libre Béjune, qui vient de se créer. Selon son président, le pays est trop peuplé pour accueillir des turbines. Une réaction à la Valaisanne, mais pas d'excuses formelles. Christian Constantin est revenu cet après-midi sur l'altercation sur le consultant Rolf Fringer. Vous entendrez le président du FC Sion dans la page sport. Pas de traces de pluie ce soir et cette nuit. C'est une belle journée qui nous attend encore demain. Le mercure va flirter avec la barre des 20 degrés. Le conseil communal de Haute-Saône prend acte. Il a réagi cet après-midi au rapport intermédiaire établi par le contrôle cantonal des finances dans son enquête sur la gestion de la commune fusionnée. L'État jurassien avait entamé des investigations le mois dernier suite à une lettre de la conseillère communale Nicole Eckenschwiller qui dénonçait des dysfonctionnements au sein de l'exécutif de Haute-Saône. Selon le conseil communal, le rapport intermédiaire ne comporte aucun élément qui peut mettre en doute l'honnêteté des autorités et des employés. Raphaël Chalvera.
Pour le conseil communal de Haute-Saône, le rapport intermédiaire est clair. Aucune malversation, aucun délit ni aucune irrégularité n'ont été commis intentionnellement par les membres de l'exécutif ou du personnel de l'administration communale. Le maire Jean-Bernard Valla.
Il n'y a pas de victoire ou il n'y a pas de défaite. On réagit par rapport à des situations qui auraient pu mettre en doute l'intégrité et du personnel et des membres du conseil. Dès le départ, on avait déjà dit qu'on était confiant et serein et on maintient qu'on est confiant et serein.
Le canton, de son côté, note qu'aucune décision particulière ne doit être prise à ce stade. L'enquête menée à Haute-Saône fait toutefois mention d'erreurs de procédure. Le conseil communal parle de remarques pertinentes liées à la construction de la commune fusionnée. Le maire Jean-Bernard Valla.
La fusion a amené beaucoup de dossiers qui nous ont été transmis par les anciennes communes. Et il y a sûrement des ajustements ou des corrections à faire dans la manière de procéder. On est bien ouvert à ça et il est bien clair qu'on va essayer de changer la manière de faire.
Le conseil communal doit désormais se positionner par rapport au constat posé par le contrôle cantonal des finances dans son rapport intermédiaire. Le gouvernement jurassien se prononcera définitivement lorsque l'appréciation de l'exécutif de Haute-Saône sera connue. Les autorités communales disent vouloir communiquer davantage prochainement pour apporter les preuves de leur bonne foi. Jean-Bernard Valla.
C'est quand on aura fait nos remarques et que le gouvernement statuera sur le rapport final qu'on aura la possibilité d'aller plus loin dans nos déclarations et d'affirmer certaines choses ou de confirmer certaines choses ou de contester d'autres choses.
Et selon les conclusions de l'enquête, le conseil communal de Haute-Saône se réserve le droit d'ouvrir des procédures disciplinaires ou pénales face aux accusations faites à son encontre.
Genisse, vaches et taureaux s'apprêtent pour le 81e marché concours bovin de Delémont. La manifestation a lieu demain au manège du Prémochel dès 9h. Ils étaient plus de 600 ce matin devant l'esplanade à Porrentruy. 600 enfants s'y sont rendus à pied dans le cadre de la journée internationale à pied à l'école. La fondation O2 a soutenu l'organisation de cette petite manifestation. Une dizaine d'autres communes jurassiennes participaient aussi à cette action qui vise à sensibiliser enfants et parents. Le conseiller municipal brentrutin en charge des écoles, Pierre-Olivier Catin.
Les parents qui accompagnent leur enfant à l'école en voiture posent des problèmes de circulation et de sécurité. Et en même temps, on peut comprendre que pour eux, c'est une sécurité d'amener leurs enfants à l'école. Donc c'est important que les autorités se préoccupent des déplacements. C'est important qu'on imagine le réseau scolaire des bâtiments et le réseau d'habitation en pensant à la pollution, en pensant à la santé et à tous ces facteurs qui font qu'actuellement les collectivités, elles ont à cœur d'imaginer le pédibus à pied à l'école. Et puis il y a des moments symboles. Voilà. Aujourd'hui, c'était montré, les élèves des écoles primaires de Porrentruy se préoccupent de la manière d'aller à l'école. Ils disent qu'ils ont réfléchi à la problématique d'y venir à pied et ils le symbolisent par une action collective sur cette place avec des panneaux qui expliquent leur réflexion en classe.
Et retrouvez un reportage sur notre site internet rfj.ch. De quoi ravir les papilles. Demain matin, les différents stands du marché de Delémont proposeront des dégustations. Les 23 maraîchers artisans feront goûter leurs produits tout au long de la matinée. Deux nouvelles associations pour lutter contre l'installation d'éoliennes. Elles ont été présentées aujourd'hui au Pontin, à la frontière du canton de Berne et de Neuchâtel. Il s'agit de Paysages Libres Béjune, qui est une fêtière des associations du Jura, Jura-Bernois et de Neuchâtel, ainsi que de Sauver l'Échelette, qui vise à empêcher l'installation de 11 tribunaux nord des Bugnonnais-Savanières. Paysages Libres Béjune a l'objectif de s'engager pour soutenir les entités locales dans leur combat. Un constat s'impose, selon le président de l'association, Michel Fior, la Suisse n'est pas faite pour l'énergie éolienne.
À partir du moment où on se pose la question de savoir si l'éolien est pertinent pour la Suisse, on arrive au constat qu'en fait, il n'y a à peu près aucun endroit en Suisse où véritablement l'éolien fait sens. C'est un pays, si vous voulez, qui est extrêmement peuplé, je dirais, dans n'importe quelle campagne. Vous avez des fermes, vous avez des agriculteurs qui habitent, vous avez peut-être des chalets. Donc on est très vite en situation où on a des riverains très proches, à 300 mètres, qui sont extrêmement impactés par le bruit. On est également, en raison du fait que c'est un pays densément peuplé, hein, en présence des d'espaces naturels, d'espaces sauvages qui sont de plus en plus petits et de plus en plus menacés, raison pour laquelle cela ne fait aucun sens pour nous d'aller y mettre des parcs éoliens pour tuer le reste de biodiversité qu'on a encore dans ce pays.
Sur les territoires du Jura, Jura-Bernois et Neuchâtel, 164 éoliennes sont en projet, alors que pour l'heure, seules 21 machines sont en activité, dont 5 dans le canton du Jura. Le coup d'envoi de la rénovation du tunnel du Weissenstein sera donné en juin 2020. Les travaux dureront un an et demi pour une ouverture en décembre 2021. La BLS l'a annoncé cet après-midi dans le cadre d'une conférence de presse donnée sur la ligne Soleure-Saint-Joseph. Le tunnel sera fermé pendant toute la durée des travaux afin de garantir leur efficacité ainsi que des coûts contenus. Les acteurs présents aussi ont insisté sur la nécessité de faire du tronçon Soleure-Moutier un produit touristique. Les spéculateurs en sont pour leurs frais. Il n'y a pas de chamboulement au Conseil fédéral. Ignacio Cassis reprend le département libéré par Didier Burkhalter, celui des affaires étrangères. Le Tessinois élu mercredi n'est pas venu expliquer cette décision. Tout indique donc que la discussion a été brève et non conflictuelle au sein du Conseil fédéral, où les autres ministres conservent leurs attributions. Ignacio Cassis débarquera donc le 1er novembre dans la tempête des délicates relations entre la Suisse et l'Union européenne. À Berne, l'analyse de Serge Jubin.
L'arrivée du PLR tessinois Ignacio Cassis au Conseil fédéral se fait décidément sans vague, élu aisément mercredi. Il succède donc à Didier Burkhalter aux affaires étrangères. Le précédent conseiller fédéral tessinois, le PDC Flavio Cotti, avait lui aussi été ministre des affaires étrangères durant la deuxième moitié de son mandat, entre 1993 et 1998. Il avait dû gérer l'après-rejet de l'EE et la négociation des premières bilatérales. Le PLR salue le maintien d'un des siens au DFAE, insistant sur l'importance des accords bilatéraux, prenant du coup ses distances avec l'UDC qui avait pourtant massivement élu Ignacio Cassis. Le Tessinois est un partisan des bilatérales, mais moins fonceur que Didier Burkhalter. Que fera-t-il de l'accord cadre réclamé par Bruxelles et des juges étrangers ? S'il devra aller batailler à Bruxelles, c'est d'abord en Suisse qu'on attend Ignacio Cassis. Comment, avec pédagogie, fera-t-il comprendre et admettre la nécessité d'accord avec l'Union européenne, même si tous ne plaisent pas ? À ceux qui se demandent quelle ligne générale adoptera Ignacio Cassis, on s'en fera une idée lorsqu'il s'agira de défendre et de débattre du budget alloué à l'aide au développement dans le viseur de l'UDC.
Une rallonge demandée par le Conseil fédéral. Le gouvernement a demandé aujourd'hui au Parlement de débloquer un supplément de près de 107 millions de francs. C'est déjà la deuxième fois cette année. Cette somme est destinée essentiellement à la caisse de pension publique et à l'élargissement de l'Union européenne. Nouvelle escalade dans les provocations entre les États-Unis et la Corée du Nord. Donald Trump a qualifié Kim Jong-un de fou dans un tweet publié encore aujourd'hui. Un peu plus tôt, Kim Jong-un avait quant à lui promis que Donald Trump allait payer très cher son discours à l'ONU dans lequel il a menacé la Corée du Nord de destruction totale.
RFJ, il est 18h09.
Le sport avec la loterie romande.
Christian Constantin s'est expliqué devant la presse après s'en être pris physiquement au consultant télé Rolfinger hier soir. Le président du FC Sion lui a donné 5 ou 6 claques et un coup de pied aux fesses. Un geste qu'il explique par les critiques récurrentes dont il faisait l'objet de la part du consultant de téléclub, Christian Constantin.
Ce que je regrette le plus, c'est que Finger a toujours utilisé télécloque pour me démolir, les caméras pour me démolir. Et puis à partir de là, peut-être que là, lui mettre quelques baffes, puis un coup de pied dans les fesses n'est peut-être pas la solution la plus opportune pour régler les cas.
On parle de sanctions aujourd'hui, vous n'avez pas l'air de les craindre.
Mais les sanctions, ben on fera les sanctions. Il y a des sanctions, il y a des avocats, il y a ce qui est juste, il y a ce qui est faux. Pour le moment, on parle de quatre baffes à un type, puis un coup de pied dans le cul parce qu'il a dit du mal de manière régulière sur toi. Voilà, après jugeons sa situation comme elle est.
Des propos recueillis par nos collègues de Rhône FM. La Swiss Football League a saisi sa commission de discipline concernant cette affaire. Neymar, Ronaldo et Messi, les trois hommes sont nominés pour le titre de joueur FIFA de l'année. Le vainqueur sera connu le 23 octobre à Londres. Les trois joueurs évoluaient la saison dernière dans le championnat d'Espagne, Ronaldo au Real Madrid, Messi et Neymar à Barcelone avant que le Brésilien ne parte à Paris. Pour rappel, ce sont les capitaines des sélections nationales, les sélectionneurs, la presse et les fans qui ont participé au vote. Une explication en altitude pour les adeptes de course à pied. La cinquième édition du trophée de la Tour de Moron a lieu dimanche au départ de Malraix. Les sportifs devront avaler 11,8 km avec 816 mètres de dénivelé positif et 196 mètres de dénivelé négatif pour allier l'édifice. Cette épreuve organisée par le groupe sportif Malraix-Bévilla fait office de sixième étape. Sur 8 du trophée jurassien, un tour reste encore ouvert au niveau du classement général féminin. Les explications de Émilie Momentaler.
Après 5 manches et autant de participations dans ce trophée Jurassia 2017, c'est Morgan Croza qui pointe en tête. Avec 473 points, l'athlète de Souls précède Marianne Froidevaux de 26 unités et Clasina Brunotte de 35. Une avance confortable pour la tenante du titre qui a dominé ses deux poursuivantes lors de chaque rendez-vous, mais rien n'est toutefois joué à 3 courses de la fin du championnat. Dominatrice en début de saison, Odile Respichère a en effet remporté les 4 premières étapes et pointe donc à 400 points avec une course de moins. Pas annoncée dimanche à Malraix, la Normonnière peut encore l'emporter en participant aux 2 dernières manches à Glovelier et Courtelary. Le même constat s'applique à Chantal Pape-Juillard. Régulière, l'athlète de Danvon est en embuscade avec 364 points en 4 épreuves. En effet, les 6 meilleures courses sont prises en compte pour le classement général, alors qu'il en faut 5 pour être classée.
Le départ de ce trophée de la Tour de Moron sera donné dimanche à 9h30 à Malraix. Quelques 360 participants sont pour leur inscrits sur l'ensemble des catégories. Il l'a fait, Yvan Bourgnon a relié l'Alaska au Groenland à bord d'un petit voilier sans cabine de protection. Il est arrivé la nuit passée, c'est la première fois qu'une embarcation de ce genre réussit la traversée du Nord-Ouest. Il est désormais sur la côte ouest du Groenland. Il y a 70 jours, il était parti de l'Alaska. C'est la première fois qu'un petit voilier barré en solitaire réussit à se frayer un chemin sur cette route. Le chaudfournier a dû affronter de violentes tempêtes, des froids mordants et un ours polaire. Yvan Bourgnon a souvent douté.
Non, le plus dur où j'ai le plus douté, c'est après 3 semaines bloquées dans les glaces. Vous savez, là-bas, l'hiver dure 10 mois et demi par an. Donc forcément, le temps compte. Le temps pour passer, je savais qu'il était limité. Et au bout de 3 semaines d'attente, je savais qu'il me restait plus que quelques jours pour éventuellement trouver une fenêtre et passer. Donc, c'est vrai que j'ai vraiment douté parce que j'ai fait 3 essais infructueux où j'ai vraiment failli me faire coincer par les glaces. Et j'ai vraiment cru que j'allais me faire broyer avec le bateau compris. Donc voilà, ça m'a fait douter. J'ai vraiment cru que j'allais abandonner à ce moment-là et que c'était terminé pour le défi. Et puis voilà, il y a eu une 4e tentative, le dernier jour possible. Et puis c'est passé. Et puis après, ça m'a redonné confiance. Et puis voilà, après, la difficulté en ce défi, c'est que plus je prenais du retard, plus je savais que j'allais rencontrer des difficultés majeures derrière. Et ça n'a pas raté parce que dans la mer de Baffin, les nuits sont devenues très longues, jusqu'à 10 heures de nuit. Les tempêtes sont devenues très très violentes. Et puis le froid, évidemment, en septembre revient très vite ici.
Le temps sera sec et le ciel en majeure partie dégagé ce soir et cette nuit. Demain, le temps sera globalement ensoleillé en pleine comme dans les hauteurs. Il se peut, ceci dit, qu'il y ait des formations nuageuses qui s'étendent du côté des reliefs, surtout l'après-midi, et qui lâchent 2 ou 3 gouttes, mais rien de bien méchant. Les températures demain toujours oscilleront à l'aube entre 6 et 9 degrés. Les thermomètres afficheront des maximales de 20 degrés.